Hello, hello les nénés, comment allez-vous? Et bienvenue dans ce nouvel épisode. À une nénée, le podcast qui donne la parole aux mamans noires et multiculturelles. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro la douce et drôle Doris. Doris va nous parler de son parcours pour devenir maman. C'est un parcours qui a été semé d'embûches et dans lequel elle a tout cumulé. Elle a commencé par une PMA, suite à des problèmes de procréation. Ensuite, Doris a été arrêtée très tôt dans sa grossesse. Et enfin, elle a eu des complications postpartum. Malgré cela, Doris est une vraie battante, elle n'a rien lâché et aujourd'hui c'est la maman de Mila, une petite princesse de 2 ans. Doris, qui est d'origine béninoise, va aussi nous parler de ses origines et de la transmission de sa culture. Et si le thème de cet épisode vous plaît, venez sur Insta, on va en discuter ensemble, le nom du compte est Ayonene Podcast. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, ça serait top. Merci beaucoup et bonne écoute.
Coucou okay. Doris, comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Oui, ça va. Bah, je te remercie alors d'être aujourd'hui mon invitée. Doris, tu as une je t'en prie. Tu as une histoire qui est quand même assez impressionnante, qui est poignante, je trouve, et que tu vas nous raconter aujourd'hui.
Oui, avec grand plaisir. C'est surtout, en tout cas, ce partage, c'est beaucoup pour les femmes noires, en particulier qui passent par des moments très difficiles avant d'avoir un enfant parce qu'il y a des problèmes de santé X, Y. Et je veux que chaque femme se dise qu'il y a toujours de l'espoir, que tomber enceinte, parfois, ce n'est pas si simple que ça. Et de garder toujours, toujours, toujours espoir. Je pense que c'est la base de tout. Donc, voilà. Donc, je vais expliquer un petit peu mon parcours. Alors, je m'appelle Doris. Certaines personnes m'appellent Nadège, ce qui est drôle parce que j'ai appris que je m'appelais Nadège au CM2. Mes parents n'ont jamais utilisé ce prénom-là, simplement que ça faisait partie de mes 3 prénoms. Et à la rentrée au CM2, j'ai dit, bah, écoutez, Nadège, j'ai fait, ah non, moi, c'est Doris, non. Et c'est la maîtresse qui me dit, ah non, vous appelez Nadège, c'est le premier prénom de votre carte d'identité. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, depuis la maternelle, enfin, depuis ma naissance, on m'appelle même Dodo, mon surnom et tout. Et puis, elle me dit, ah non, vous appelez Nadège. Et puis, à midi, je rentre à la maison, je dis à ma mère, mais maman, je m'appelle Nadège. Elle m'a fait, oui, mais c'est un prénom qu'on n'utilise pas. Je lui ai dit, mais tu t'en rends compte quand même, je me suis embrouillée avec ma maîtresse. Franchement, dès le premier jour, ça ne fait pas. Donc, du coup, eh ben, il y a une bonne partie de mes amis d'enfance qui m'appellent Doris et une autre partie qui m'appelle Nadège. Voilà, c'est la petite anecdote.
D'accord. Non, mais c'est vrai qu'après, ça, c'est hyper commun chez les Africains, parce que moi, c'est pareil, j'ai 2 prénoms. Et j'ai mon prénom officiel pour les papiers, pour les gens avec qui j'ai été à l'école, et le prénom des personnes qui me connaissent dans la sphère intime. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit principalement chez nous, quoi.
Je suis complètement d'accord. Franchement, c'est un truc de fou. Mais quand j'explique aux gens, ça les fait toujours rire. Ils se disent, mais comment t'as fait? Mais comment ça peut être possible? Je leur dis, écoutez, on parle ça avec ma mère. Hein. Moi, je ne suis que la victime de ce prénom. C'est le prénom.
Mais tant pis.
Et j'ai 34 ans. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Mila et qui a 2 ans. Et très, très fière d'être sa maman, évidemment. Du coup, nous vivons en banlieue parisienne, au nord de Paris, et on habite dans une maison. Mila a la possibilité de jouer dans le jardin, aller chez sa nourrice, voir ses grands-mères, voir la famille. Donc, du coup, voilà, c'est moi.
C'est trop cool. Et alors, donc, tu as dit que tu vis dans le nord de Paris, sachant que tu es née à Neuilly et que tu as grandi à Pierrefitte. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment était ton enfance à Pierrefitte?
Ah, c'était top. Franchement, c'était génial. J'habitais déjà dans une maison. Donc, du coup, on avait le jardin. On avait, en bas de notre rue, on avait un espace de jeu où on se retrouvait, tous les enfants du quartier, on se retrouvait. On pouvait jouer à la balançoire, jouer à cache-cache. Enfin, c'était génial. Les voitures, il n'y en avait pas tant que ça dans la ville. Donc, du coup, on traversait, on se courait après les uns les autres. On avait tous été dans la même école à Jean Jaurès, à Pierrefitte. Donc, c'était vraiment une ambiance très familiale, très cosy. Et il y avait une... je ne sais pas comment dire, mais c'était un peu notre Mero's Place, quoi. C'était vraiment, on se connaît tous. Génial. Franchement, c'est une enfance de fou. On pouvait aller sortir sans fermer la porte à clé, sans que personne nous cambriole ou quoi que ce soit. Il y avait une sorte de... on vivait comme dans une espèce d'une bulle, en fait. On se sentait protégé, en sécurité. Et c'était un bonheur fou. Et je regrette un peu cette époque de ma vie parce que ça a beaucoup changé, Pierrefitte. C'est plus pareil. C'est... j'aime pas ce terme-là, mais ça s'est ghettoisé. Ça, c'est une réalité dans beaucoup de villes de banlieue. Mais autrement, Pierrefitte, c'était swag. C'était la ville où il fallait être.
Mais ça t'a laissé un bon souvenir, quoi. C'est le plus
Ah oui,
important.
complètement.
Ah, super. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire et professionnel?
Oui, alors pour le parcours scolaire, alors, je suis une enfant qui a redoublé, donc j'assume de le dire, ce n'est pas une
Oh,
honte de
t'inquiète, on
redoubler.
est deux.
Ah bah voilà,
Voilà.
il faut le dire parce que souvent les personnes ne le disent pas parce que soit ça crée une gêne ou autre. Et moi j'ai envie de dire qu'en fait on peut réussir même en ayant redoublé, ce n'est pas une tare, c'est pas méchant. Donc voilà, j'ai redoublé ma seconde et je me suis posé beaucoup de questions en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, etc. Donc je suis allée vers la section qu'on appelait section tout terrain à l'époque, STT. Et de là, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui je suis restée amie jusqu'à présent. Et ensuite, donc, j'ai fait ce bac STT. Je suis partie à la fac pour faire une licence d'anglais. Parce qu'à la base, je voulais me destiner à l'éducation, donc devenir professeur d'anglais au collège ou au lycée, en passant CAPES. Et ma deuxième année de licence, je suis partie en Erasmus à Bristol, qui est à 2 heures de Londres. Et j'ai passé 2 ans et demi là-bas. C'était génial. J'ai rencontré des gens complètement oufissimes de toutes les nationalités, en particulier des personnes qui venaient d'Afrique, du Zimbabwe, du Kenya. Enfin, c'était
Ah, c'est
énorme. Franchement,
génial.
une diversité, mais qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France. Que les anciennes colonies ne sont pas les mêmes, hein, de toute façon, pour le Royaume-Uni et la France, mais du coup, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et le nombre de Nigérians que j'ai rencontrés là-bas, c'est un truc de fou. Les Jamaïcains,
Oui.
c'était génial. Les
Les
accents,
Ghanéens.
les Ghanéens, il y avait
Ouais.
de tout. Alors maintenant, faut se dire qu'il y a toujours un débat entre les Ghanéens et les Nigérians sur le riz, le jollof, qui fait
J'aime pas.
le mieux. Ils étaient
Moi, j'ai
en
envie de
détail.
dire, ils peuvent débattre comme ils veulent. Le chef sénégalais reste le meilleur.
On est
Voilà.
d'accord, à 100%. À 100%. On ne peut pas mentir dessus. C'est doux comme il faut. C'est doux, ça passe crème. Et du coup, après ça, après ma licence, donc je l'ai validée avec une mention. Et au final, en fait, en Angleterre, on favorise énormément l'inscription en association. Ce qui était génial, c'est qu'on les appelle les Societies and Associations. Donc moi, je m'étais inscrite dans une association qui s'appelle Blink, qui était en aide pour le Nicaragua. Et après ça, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un master en solidarité internationale ou en droit international? Et j'ai fait mon master. Je suis partie 6 semaines au Nicaragua pour mon mémoire. Le sujet était assez controversé parce que c'était sur l'avortement qui n'est pas accessible à toutes. Et pour moi, ça tenait à cœur que je puisse faire quelque chose à ce sujet. Donc, je l'ai fait. Je suis partie avec mes propres moyens, avec mon propre stress, parce que ce n'était pas évident. Fallait organiser des entretiens avec des femmes qui étaient passées par l'avortement. C'était pas du tout simple parce que si la police sait qu'on fait quelque chose justement sur l'avortement, tout de suite on peut être en garde à vue. Et la garde à vue au Nicaragua, c'est pas la garde à vue qu'on a en
Non,
France. Donc
France.
c'était un sujet qui était très sensible clairement. Et j'avais une interprète qui venait régulièrement pour me dire qui interroger, comment le faire, où le faire, ou ne pas aller du tout. Donc, du coup, c'était 6 semaines intenses, mais un bon stress, des bonnes rencontres, mais beaucoup d'histoires très poignantes qui faisaient très mal au cœur parce que, il y avait eu beaucoup de cas de jeunes filles mineures de 12-13 ans qui étaient tombées enceintes de leur beau-père, d'une personne de la famille. Donc, il y a eu beaucoup,
Oui.
enfin, en tout cas, la plupart qui ont témoigné. Certaines, c'était par rapport à de l'inceste ou un viol. Et malheureusement, ben, les parents essaient toujours de trouver une solution pour pouvoir aider l'enfant. Malheureusement, tout est fermé au Nicaragua. Il n'y a aucun moyen de pouvoir faire l'avortement, sauf de passer par des infirmières, mais c'est illégal. Donc,
D'accord. Donc,
c'était assez.
même dans des cas de viol ou d'inceste, on n'a pas le droit d'avorter.
On n'a pas le droit. Non, c'est
Non,
l'un
c'est
des
fou.
pays les plus stricts avec l'Eldo. Quel est le pays qui est au nord du Nicaragua? Je crois que c'est El Salvador, je crois. Oui, c'est ça. El Salvador, Nicaragua, Argentine, Brésil ont des lois qui sont assez restrictives parce qu'ils se disent que non, c'est un don de Dieu. Je ne sais pas où est le don de Dieu quand il s'agit d'un viol ou de l'inceste. Moi, ce n'est pas le cas. Et il n'y a pas à se dire que c'est une volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas une volonté, c'est un poids qu'on porte physiquement. Et en plus, qui donne vie à un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde. Donc,
Oui.
c'est quelque chose qui est très particulier. Et j'ai trouvé que les femmes étaient extrêmement combattantes, malgré les lois punissables. Elles essayaient toujours de s'entraider et je pense que c'est l'une de leurs forces. Et j'espère qu'en tout cas, un jour, on connaîtra un peu plus l'histoire du Nicaragua parce que ce n'est pas assez connu, je trouve. Et c'est assez extraordinaire de partir là-bas.
Oh, c'est fou, c'est fou. C'est vrai que ça a dû être une expérience éprouvante, mais en même temps, qui a dû te faire grandir, tu as dû voir.
Oui.
Enfin, c'est vrai qu'écouter les histoires, en fait, et de savoir que tu peux les aider au mieux que tu peux,
C'est
bah, déjà,
ça.
c'est génial, quoi.
C'est énorme, c'est clair.
Ouais. Alors, c'est vraiment top, en tout cas, ce que tu as fait. Et
Merci.
je t'en prie. Et donc là, bah, justement, on va parler de toi en tant que maman. Alors, donc, tu es la maman de Mila qui a 2 ans, que
C'est
tu as
ça.
eu en faisant un parcours PMA.
C'est
Est-ce que
ça.
tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
Oui, alors ça s'est passé comme beaucoup d'histoires qui commencent comme ça. Pas de bébé qui arrive, des essais. On essaye avec monsieur de se dire, allez, le mois prochain, on va faire un test de grossesse, il sera positif. Et finalement, les mois passent et il n'y a toujours rien. En plus, moi, mon problème, c'est que je n'avais pas mes règles régulièrement, donc ça ne m'aidait absolument pas à savoir quand est-ce que j'ovulais. Et j'avais décidé de prendre rendez-vous avec mon gynécologue. J'ai dit à mon copain, c'est quoi, viens avec moi, on ne sait jamais. Peut-être qu'il faudra faire des tests, comme ça on saura si tout va bien entre nous deux. Sachant que lui est déjà papa d'une fille qui s'appelle Manon. Et du coup, on a vu mon gynécologue qui nous a dit, bah, écoutez, on va faire des tests. Donc ça va être tout type de tests, hein. Ça va être le VIH, ça va être au niveau hormonal, ça va être au niveau sanguin, enfin au niveau sanguin, c'est-à-dire cholestérol, diabète, typhoïde, non thyroïde, plutôt thyroïde. Et du coup, il a fait un bilan sanguin. Pour moi et pour monsieur, pour vérifier où on en était. Donc pour moi, c'était pas terrible parce que niveau diabète, cholestérol et autres, tout ça c'était bien. J'étais dans les normes, j'étais pas trop en dessus ni trop en dessous. Mais mon problème c'était que j'avais mon AMH, c'est l'hormone antimullérienne qui permet de dire si on a une réserve hormonale, non, une réserve ovarienne suffisante. Et moi la mienne était largement au-dessus, ce qui n'était pas bon signe, ce qui était un signe du syndrome polykystite, des syndromes des ovaires polykystiques qu'on appelle SOPK, qui est une pathologie endocrinienne, donc qui empêche les ovaires de fonctionner correctement, qui aussi empêche d'avoir les règles, ou si les règles sont présentes, elles sont extrêmement douloureuses, elles peuvent être très courtes ou très longues. Le cycle, on peut avoir de grosses douleurs qui peuvent nous emmener jusqu'à l'hôpital parce que certaines personnes font des malaises, ratent des jours d'école ou ratent des jours de travail parce que ben, c'est des dysménorrhées, c'est comme ça qu'on les appelle, les règles douloureuses. Et pendant des années, j'ai eu ça et jamais personne n'a pu m'expliquer. La seule chose qu'on me disait, c'était ben, c'est normal, ça va passer en grandissant. Quand vous serez maman, vous verrez, ça disparaîtra.
Et
On est
voilà, on va te
depuis
dire plein de
les
choses, ou alors c'est
Voilà.
normal, c'est les règles, enfin, c'est normal
C'est
que tu
ça.
souffres.
C'est normal de souffrir quand on a ses règles. Donc, cette phrase est restée dans ma tête pendant des années. Je me disais, bon, bah, c'est quand même bizarre. Ma mère et ma sœur ont leurs règles, mais elles ne souffrent pas plus que ça. Et elles sont toutes les deux fertiles. Donc, quel est mon problème? Et mon gynécologue me dit, bah, écoutez, on va faire un examen, on va vérifier. Donc, il me fait une échographie dans la salle d'à côté. Je me rhabille, je vais m'asseoir. Et il me dit, bah, écoutez, moi, le bilan que je dresse, c'est que déjà, votre col est ouvert, donc il faudra vous cercler. Ensuite, votre poids n'est pas bon. Il faudra perdre 10 kilos si vous voulez que je vous suive en FIV. Sinon, je ne vous prends pas.
Oh là là.
Ensuite, ouais, il a été très brutal, hein, ce gynécologue-là. Ensuite, il m'a dit, écoutez, si vous souhaitez avoir un enfant naturellement, vous pouvez toujours espérer, vous n'aurez pas d'enfant. Et si vous voulez avoir des enfants, il faut savoir qu'il faudra passer par la FIV et vous risquez de faire plusieurs fausses couches. Et si vous arrivez, en tout cas, à tomber enceinte, il faudra vous allaiter.
Là
Donc,
là.
après un pronostic aussi catastrophique, donc moi je m'effondre forcément. Je me dis,
Bah oui, clairement.
bah, clairement, et je me dis, c'est-à-dire que mes médecins, enfin les gynécologues que j'avais vus avant, n'ont même pas vu ça. Ils ne sont pas posé la question plus que ça en se disant, bah, là, c'est une jeune fille qui a des règles douloureuses, elle a quand même des réactions très bizarres, parce que souvent j'étais tellement handicapée, je ne pouvais pas marcher. Et les médecins ne sont pas mis tout ça bout à bout en se disant, mais peut-être que c'est le SOPK. Eux sont juste dit, bon, bah, c'est encore une gamine qui se plaint de règles parce que ça va, elle a mal, c'est rien, quoi. Ils ont pris ça à la légère. Et donc, quand le médecin m'a annoncé tout ce qu'il m'a dit, je me suis dit, mais en fait, c'est mort, j'aurai jamais d'enfant, ça ne va pas être possible. Donc, grosse dépression pendant 3 mois. Je me suis dit, bon, bah, c'est mort, je ne serai jamais maman. Il faudra peut-être penser à l'adoption. Et mon compagnon en parle avec un de ses collègues qui lui dit, bah, écoute, c'est quoi? Va à l'hôpital du Blanc-Ménil. J'ai un médecin là-bas qui nous a suivis parce qu'on a été aussi dans un problème d'infertilité. Donc, va te renseigner auprès de ce médecin. Donc, je prends rendez-vous, 2 mois d'attente avant qu'il puisse nous recevoir. Déjà à l'époque, donc c'était en 2018, il y avait déjà des listes d'attente dans certains centres de PMA qui pouvaient aller de quelques mois à 1 an, selon là où tu voulais aller. C'est extrêmement
D'accord.
long, donc ça te décourage même. Et de là, bon, lui, il fallait attendre 2 mois, donc ça restait correct en termes d'attente, mais c'était quand même long. Et on le rencontre finalement en novembre. Il me dit, écoutez, j'ai vu vos examens. On va quand même tout refaire. On va bien vérifier ce que vous avez. Et comme ça, on va poser un diagnostic. Donc, lui me confirme le SOPK. Mon copain, lui, rien du tout. Pour les hommes qui font la PMA, beaucoup d'hommes ont des problèmes de fertilité. Très peu le disent. Ça peut être lié au poids aussi pour les hommes, ça peut être lié à la façon dont ils s'habillent, les pantalons serrés, ce n'est pas bon pour les hommes, mais pas du tout, du tout. Et c'est
Ni
vrai
pour les femmes
que
aussi, d'ailleurs.
nous, pour les femmes, ah oui, alors pour nous, c'est même déconseillé,
À
c'est faut éviter
proscrire.
de. Voilà, faut pas se saucissonner dans son pantalon pour
C'est ça, il
sentir.
faut vivre.
Voilà, faut laisser respirer, voilà. Et du coup, c'est vrai que pour lui, ben, lui, il n'avait pas de soucis, il avait une fille, donc. Normal. Et donc, c'était sur moi que reposait une sorte de pression, en fait. Et je me disais, mais le pauvre mec avec moi en couple, il pourra peut-être même pas avoir d'enfant avec moi parce que j'ai un problème de santé, quoi. C'est pas juste. Donc, pendant une grosse période, moi, je me posais beaucoup de questions, honnêtement. Et le médecin nous dit, bah, écoutez, vous allez faire un examen qui va montrer si vos trompes fonctionnent bien. Donc, il a injecté en fait de l'iode. Ça permettait en fait de mettre en relief, on va dire, l'autoroute de l'utérus. Donc, de là, on fait l'examen qui est très douloureux. Et il me dit, bah, écoutez, la trompe gauche, bon, on ne la voit pas trop, mais je pense qu'elle est un peu fainéante. Mais la trompe droite, on la voit parfaitement et tout va bien. Donc, il me
Ça, c'est une
dit,
bonne
on va
nouvelle
passer.
déjà.
Voilà, c'était quand même plutôt rassurant. C'était peut-être même la première chose positive en fait quand on est rentré en PMA. Ensuite, il m'a donné un médicament pour pouvoir déclencher les règles, en fait, le Lutéran. Et il n'a pas fonctionné tout de suite. Il a fallu attendre 2 semaines parce qu'il fallait que j'appelle le secrétariat pour tenir au courant quand est-ce que j'avais mes règles. Et à partir de là, il pouvait poser un calendrier pour faire l'insémination artificielle. Finalement, il me met aussi sous le Clomid. C'est ce qui permet, en fait, de booster, on va dire, le corps de la femme pour une introduction d'un transfert, j'aime pas trop le terme, on va dire transfert de gamètes, voilà, on va pas être méchant sur les termes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant les prises de sang, les échographies régulières 3 à 4 fois par semaine, il m'a dit, écoutez, ça fonctionne pas, on va pas à l'insémination artificielle, on va passer directement à la FIV, parce que vous, ça ne marchera pas. Donc, sur le coup, je me dis, bon, bah, c'est pas terrible quand même.
Est-ce que tu peux juste nous expliquer la différence entre insémination artificielle et FIV?
Oui, alors l'insémination artificielle, c'est ce qu'il y a de plus naturel. En gros, on récupère la semence de monsieur, on prend les meilleurs nageurs et on les ajoute en fait dans un cathéter qu'on insère dans le ventre de la maman, de la future maman. Donc ça, c'est la version la plus naturelle, la plus simple. La FIV, elle, ça se passe en laboratoire. On récupère donc les ovules de madame, les spermatozoïdes de monsieur, et en fait, on les met dans un tube à essai pour faire une sorte de fécondation in vitro. Donc à partir de là, on a un embryon. L'embryon est ensuite transféré dans le ventre de la mère. Et si ça se passe bien, 9 mois plus tard, il y a un bébé qui nous fait et on est heureux. Si ça ne fonctionne pas, il faut recommencer. À chaque cycle, c'est pareil pour l'insémination artificielle. Et il faut savoir qu'en France, il y en a 6 qui sont prévus par la Sécurité sociale pour l'insémination artificielle et 4 prises en charge pour la FIV. Donc à partir de ce moment-là, quand on est, faut justifier d'être en couple avant tout, parce que c'est assez discriminatoire. Toutes les femmes seules n'ont pas le droit de faire
Je
la
vois.
PMA. Ni les femmes lesbiennes, c'est uniquement les personnes qui sont en couple et qui sont français. Si vous avez des papiers, le protocole peut être un petit peu différent, normalement. Mais en tout cas, prise en charge de 6 inséminations artificielles et 4 FIV par la Sécurité sociale. Il faut avancer les frais, mais on est remboursé à 100%. Et ça dure, le 100% dure pendant 5 ans, renouvelable s'il le faut. Voilà, petite parenthèse
D'accord.
de Sécurité sociale.
Ouais, mais c'est très important de le savoir aussi pour les personnes qui y pensent justement. C'est important de savoir aussi dans quoi elles vont se lancer et
Ah oui.
de savoir à quel niveau aussi, parce que enfin, on n'y pense pas forcément, mais ne serait-ce que de savoir que c'est remboursé par la Sécu ou qu'il faut
Oui.
être en couple, bah, ça peut
Oui.
être des choix décisifs pour les personnes, tout simplement.
Exactement, oui. Parce que beaucoup de couples se cassent la figure, malheureusement, dès qu'on entend PMA, parce que tout de suite, la première chose qu'on va se dire, c'est que c'est la femme qui a un problème, alors que ça peut être l'homme. Souvent, on oublie que l'infertilité, c'est les deux. Ce n'est pas que la femme, c'est l'homme. Tout de suite, on vise la femme parce que c'est elle qui porte la grossesse, mais on ne se dit pas, bah, monsieur peut avoir un problème aussi. Donc, il faut aussi que les gens se mettent en... se disent que ce n'est pas une tare, en fait, d'avoir un problème de fertilité. Ça peut arriver à n'importe qui. Et notre mode de vie aussi peut en pâtir. Le stress, la prise de poids, le tabagisme, l'alcoolisme, le
L'alimentation.
stress. Voilà, l'alimentation. Il y a beaucoup de facteurs qui, malheureusement, impactent notre santé sans même qu'on le sache, parce que c'est invisible. Si vous ne faites pas les examens médicaux, vous ne pouvez pas le deviner ni le savoir, quoi. Et c'est vrai que notre médecin a été assez cash dessus. Il nous a dit, de toute façon, vous verrez, vous aurez votre enfant. Je vous le promets, vous aurez votre enfant.
Oh.
Mais il a été tout de suite, mais dans la positivité, il n'a pas du tout été dans le, il y a telle probabilité que vous aurez un enfant, etc. Mais il a dit, vous l'aurez, d'accord? Vous l'aurez. Et le deuxième bébé, ce sera bébé couette, d'accord? Il nous a mis dans l'ambiance. Et c'est
Ouais,
vrai
c'est
qu'il a été,
génial.
il a été vraiment génial. Et du coup, avant de commencer la FIV, on s'est dit, on part en vacances parce que ce qui va nous arriver par la suite, s'il y a bébé, on n'aura plus l'occasion de pouvoir le faire. Donc, on s'est dit, allez, on part quelques jours à Marrakech, histoire de prendre du soleil.
On
C'était,
profite.
voilà, on profite un petit peu. Et puis là, ben, on commence les injections. Alors, les injections, c'est prescrit par le gynécologue et c'est des piqûres qu'on s'injecte soi-même. Alors, ce n'est pas méchant, c'est une toute petite aiguille qui ne fait absolument pas mal. On peut être surpris la première fois, je suis d'accord, mais ça fait absolument pas mal. Il y a des infirmières qui peuvent se déplacer pour aider. Nous, on est parti voir une amie à nous qui est infirmière, qui nous a montré comment faire les injections. Donc, le médecin nous donne sur l'ordonnance toutes les doses à mettre quotidiennement. Et à respecter les horaires. Souvent, les gens ne respectent pas ça et ça peut causer des échecs. Donc, il faut
D'accord.
respecter vraiment ce qu'on demande, ce que le médecin demande. Il faut vraiment respecter à la lettre, comme une recette, tout simplement. Et donc, tous les un soir sur deux, c'était monsieur qui me piquait ou moi, ce qui permettait à lui, pour lui, en tout cas, de participer d'une certaine façon à la création de notre bébé. Donc, c'était
Oui, c'est
plutôt,
de se sentir impliqué, c'est bien.
voilà, de sentir impliqué et pas que ce soit que médical. On voulait aussi qu'il y ait un côté un petit peu plus fun que le côté bon, bah, bouge pas, attention, je nettoie, je te pique, c'est fini. Non, on voulait vraiment que ça soit quelque chose où on est vraiment impliqués tous les deux. Et donc, la deuxième piqûre, je sais que c'est lui qui l'a fait. Moi, j'étais en stress, j'étais, ça va faire mal, ça va faire mal. Il m'a dit, non, mais ça va être tranquille. Bon, quand on est infirmière, c'est sûr qu'on sait où piquer, on a les mots, on a les gestes, tout va bien. Et là, je me disais, c'est mon copain qui va le faire, ça se trouve, je vais douiller, quoi. Et ça se trouve, il n'a même pas visé au bon endroit. Et puis, ben non, ça s'est très bien passé. Moi, le soir, le lendemain, c'était moi, ainsi de suite. Donc, ça a duré une dizaine de jours. Et en fait, quand on fait les injections quotidiennement, on voit le gynécologue 4 à 5 fois par semaine. Donc, les absences au travail, ce n'est pas terrible, mais il
Ah
faut
bah
savoir
oui.
qu'il y a une loi qui protège les femmes et les hommes en PMA. Alors, je ne sais
D'accord.
plus quelle est la loi, mais il y a une loi en tout cas qui protège et qui interdit l'employeur de licencier et de sanctionner financièrement la personne qui part aux rendez-vous médicaux, dans le sens où ce n'est pas pris sur le salaire. Si on part une
D'accord.
demi-journée, par exemple, l'employeur n'a pas le droit de toucher au salaire, ni au congé, ni au RTT. Ça, il faut vraiment que
OK.
les femmes le sachent, parce que beaucoup ne le savent pas. Certaines personnes vont poser des congés alors qu'en fait, c'est leur droit d'aller au rendez-vous. Donc moi, je prenais mes rendez-vous le matin très tôt. Comme ça, au moins, je savais que le reste de la journée, je pouvais repartir au bureau et travailler. Bon, je travaillais pas forcément dans des bonnes conditions parce que les traitements étaient lourds, parce qu'on a les injections, mais on a aussi la prise d'hormones par voie orale et voie vaginale. Donc c'est quand même assez lourd comme traitement qui provoque très souvent des vertiges, une fatigue très, 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 très on va dire, très visible, clairement, parce qu'on peut limite s'endormir, même dans les transports, en voiture. Donc, il faut vraiment être très vigilante.
Ah oui.
C'était vraiment lourd. Honnêtement, les vertiges, j'en ai eu pas mal sur mon lieu de travail. Je faisais tout le temps en sorte de me dire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et si j'allais pas très bien, j'allais aux toilettes quelques minutes, histoire de reprendre, et j'assurais ma journée de travail. Mais si on remarque que ça va trop mal, bah, faut pas hésiter à voir le médecin, quoi qu'il en soit. Et après ces dizaines de jours d'injection, on passe à la ponction, c'est-à-dire que les injections permettent en fait de stimuler nos follicules pour qu'ils puissent créer des ovules qui vont être ponctionnés par la suite sous anesthésie générale ou je crois c'est anesthésie rachidienne, donc dans le bas du dos.
D'accord.
Si je me trompe pas.
Oui.
Et moi, c'était anesthésie générale parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'ovules. J'avais fait une hyperstimulation, ça veut dire que j'avais stimulé, enfin mon corps avait été très très stimulé. Mais mon médecin m'avait dit bon bah il y en a beaucoup là, il y en a de bonnes tailles, il y en a pas terribles, mais on va tout ponctionner comme ça on est tranquille.
Et ça maximise les chances aussi.
Voilà, exactement. Plus il y a de follicules, plus il y a des chances d'avoir des embryons qui pourront être viables et qui pourront être transférés à la maman. Donc ça c'est le côté très positif de l'histoire. Et 23 follicules ont été ponctionnées. Le lendemain, j'ai appris que 13 ont été fécondés. Donc, j'en ai perdu 10 en chemin parce qu'ils étaient sûrement de mauvaise taille ou de mauvaise qualité. Donc, ceux-là, on s'en débarrasse pour se laisser plus de chance. Et donc, des 13, finalement, le résultat final est passé de 6. Donc, c'est vrai que c'est très dégressif parce qu'on se dit, bon, ben, 23, c'est beaucoup, mais c'est le résultat final qui nous importe parce que ça permet de savoir combien de tentatives on va pouvoir avoir. Donc, le jour de la ponction, monsieur doit être présent pour pouvoir donner sa semence pour que tout de suite au labo, il puisse prendre les follicules et les spermatozoïdes pour faire un embryon. Et de là, il les conserve au frais, entre guillemets. Et si la patiente ne peut pas faire le transfert tout de suite, ils sont congelés ou vitrifiés. Congelés, c'est comme si on congelait au congélateur. Et vitrifiés, ça permet de congeler l'embryon à moins 196 degrés tout de suite. Donc, on ne perd pas de cellules, tout est intact. Et c'est payant. Par contre, cette version-là est payante. Nous, on a fait vitrifier nos six embryons. Et malheureusement pour moi, j'ai fait une sorte d'hémorragie après la ponction. Donc, j'ai dû rester à l'hôpital 3 jours au lieu de juste quelques heures. Et malheureusement, mon médecin m'a dit, on ne va pas pouvoir faire tout de suite votre transfert, on va attendre le cycle suivant. Donc, période de stress intense. Donc,
ouais, il y a un mois à attendre encore.
Un mois à attendre, voilà. Je me disais, bon, c'est un petit peu long. Et puis, je me suis dit, si je commence à calculer les jours, je ne vais pas m'en sortir. Ouais. Donc, je me disais, je ne pense pas. Je passe du temps avec ma famille, mes amis, je vais au cinéma, je profite, je vais en soirée. Je me dis, allez, je prends du temps pour moi. Je me dis, allez, un peu, ça va passer vite, mais si je commence à mettre mon temps, enfin, penser à que ça, je ne vais jamais m'en sortir, je vais être encore plus stressée. Mmh. Donc, je me dis, je vais claquer mes dents les plus beaux, on va aller en soirée, on va aller s'habiller, on va profiter de la vie. Et puis, le jour arrive, le médecin nous dit, écoutez, vous venez, on va faire l'échographie. Bon, tout va bien, l'endomètre est de belle taille, c'est top. Écoutez, on fait le transfert dans 3 jours. Donc, je me dis, c'est cool, on va faire le premier transfert de l'un de mes 6 embryons. Donc, super contente, monsieur pareil. Et donc, pour faire le transfert, il faut être en position gynécologique. Et on a un médecin qui vient du laboratoire, qui nous apporte le cathéter et qui vérifie l'identité. Monsieur, madame, vous êtes prêts? Oui, 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 on est très prêts, on attend. et puis du coup, c'est très solennel. J'ai bien aimé le contexte, comment ça s'est passé. Et puis, l'infirmière qui a apporté la petite couverture pour pas que j'ai trop froid, en me disant, écoutez, si vous avez
quelque chose,
vous n'hésitez pas, je suis à côté de vous. Mais c'était vraiment très sympa. Et du coup, le médecin, donc mon gynécologue, arrive et me dit, bon, allez, c'est parti, on va y aller. Et ça ne se passe pas complètement comme il fallait pour moi. Là où ça devait durer 2 minutes, ça a duré 15 minutes. Donc, on avait un petit peu la boule au ventre avec mon copain. On se disait, mais c'est un peu long quand même. D'habitude, c'est plus rapide. Et puis, c'était très douloureux aussi. Ce qui s'avère que moi, j'ai un petit bassin étroit. Donc, du coup, le cathéter ne passait pas correctement. Et le médecin a eu beaucoup de mal et j'ai perdu un peu de sang pendant l'examen. Bon, ce qui peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Et je me dis, vu comment ça s'est passé, j'ai l'impression que ça va pas marcher. Et donc, le médecin nous laisse toujours, en fait, après le transfert, une ordonnance pour faire la prise de sang au bout de 10 et 13 jours. Donc, j'attends les 10 jours avec un patient. Je me dis, j'ai mon bébé dans mon ventre. Je lui parle. Pour moi, j'étais enceinte. Donc, je lui parle, je lui dis, accroche-toi, maman est là, on va prendre soin de toi. Toute contente. Donc, je vais faire ma prise de sang au bout des 10 jours et résultat négatif. Donc, grosse claque, ce que je me
Grosse
dis,
déception.
grosse déception en me disant que bon, bah, ce sera pas là. Je refais la deuxième prise de sang quand même, parce que bon, c'était dans le protocole. Négative, donc je me dis ok, bon, la prise de sang n'était pas bonne. Le médecin nous dit écoutez, désespérez pas. Le premier transfert échoue très souvent, c'est pas une fatalité. On attend le prochain cycle et on recommence. Donc, toujours comment on appelle ça? J'étais sous acide folique aussi d'ailleurs. Et je continuais mes hormones par voie orale et voie vaginale. Donc toujours des vertiges, toujours un petit peu compliqué. Et on fait le transfert, le deuxième transfert qui se passe mieux quand même, qui dure moins longtemps. Mais toujours pareil, cette sensation d'échec en fait pour moi. Et mon compagnon me dit, mais t'inquiète pas, tu verras dans 10 jours. Tu auras un beau positif et tu pourras même acheter le Clear Blue là pour montrer à tout le monde. Ouais, regardez. Et puis là, je fais OK, bon, on va attendre. Les 10 jours passent, je fais la prise de sang. Pareil, négatif. Là, je me dis, mais je suis maudite en fait. Jamais je vais pouvoir avoir mon enfant, jamais je vais pouvoir être maman. Mon compagnon est une femme et avec une femme qui n'est même pas capable de donner naissance, enfin, de tomber enceinte. Je ne suis pas une femme, quoi. J'échoue dans quelque chose de si basique, je n'y arrive pas. Donc, beaucoup de questions. Là, par contre, pour le coup, ce deuxième transfert, je l'ai vraiment très mal vécu parce que je me suis dit, mon chiffre préféré, c'est le 2. Et pour moi, là, ça devait fonctionner.
Ah oui.
Donc, la grosse dépression, je me couche en pleurant. Dès que je vois une femme enceinte, je deviens dingue. Quand on m'annonce qu'il y a une grossesse, je suis hyper contente, pas jalouse du tout, mais je me dis, ce n'est pas
Mais
moi.
triste en même temps, ouais.
Voilà, triste en même temps. Mais par contre, j'ai jamais jalousé. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai jamais eu de jalousie envers les gens ou de l'envie. J'ai toujours été heureuse pour toutes les personnes qui étaient enceintes autour de moi. Mais c'est simplement que je me disais, mais c'est toujours pas mon tour, en fait. C'est toujours pas moi. C'est pas moi
Ça
qui
te manquait à
l'annonce.
toi.
Voilà. Donc, je voulais pas être non plus égoïste. Je voulais partager ce moment-là de bonheur avec mes amis ou ma famille, parce que je me disais, mais c'est trop cool, un nouveau bébé, ça fait plaisir. Puis j'étais toujours heureuse pour eux, toujours, toujours. Mais voilà, j'avais un petit pincement qui me disait que moi, bah, dans mon ventre, il n'y a rien. C'était vide. Et le médecin nous dit, bah, écoutez, l'endomètre n'était pas de très belle taille. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de nidation. Ce qui fait que la nidation permet en fait de garder l'embryon et de le développer, ce qui devient
S'accrocher.
notre gros bébé. Et de là, il nous dit, bah, écoutez, ben, le 25 mai, on fait le transfert, c'est le troisième, mais cette fois-ci, vous injectez deux embryons. Donc, on part sur une grossesse gémellaire. Donc, on se dit, ah, bah, ça peut être cool, deux enfants d'un coup, pourquoi pas, hein, ça peut être cool. Et donc, on y va, ça se passe hyper bien, mais je suis hyper relaxe parce que je me dis, j'ai plus besoin de stresser, je ne peux pas contrôler mon destin, donc je laisse les choses se faire. Donc ça se passe bien et puis je me dis et si je partais en Espagne? Donc je prends mon billet sans un coup de tête hein, le lendemain et je dis à mon copain mais c'est l'Espagne quand je peux partir toute seule en Espagne? La fiesta tout ça les tapas le soir je vais manger ça toute seule moi? Ah
À
non non
toute
non
seule, ah
ah
oui.
ouais mais moi j'étais prête à partir toute seule j'avais besoin d'avoir un petit côté un petit peu de folie et puis je prends mon billet je l'achète et puis je me rends compte mais en fait je peux pas aller toute seule en Espagne c'est bête. J'appelle mon copain, je lui dis, mais ça te dit d'aller en Espagne? Il me dit, bah ouais. Je lui dis, bah attends, bouge pas, j'achète le billet. Et puis je lui dis, mais attends, pourquoi mon meilleur ami qui est en déprime, lui? Henri, mon coco, est-ce que tu veux partir en Espagne? Il me dit, bah oui, je suis opérationnelle. Alors du coup, je prends les trois billets, je me suis ruinée bêtement.
Ou pas, peut-être qu'il s'est
C'est
dit qu'il
ça.
fallait.
Voilà, c'est ce dont j'avais besoin. Et donc du coup, on part tous les trois. Du coup, mon meilleur ami et mon copain s'entendent très bien, donc ça tombe très bien. On se prend un petit logement Airbnb à Malaga. On profite de la plage, des tapas, de l'accent espagnol. C'était génial. Et bah, le jour où on revient, c'est le jour où je dois faire ma prise de sang.
D'accord.
Donc, Là, après les quelques jours qu'on a passé en Espagne, on s'est reposé, on a dormi tard, on a fait la fiesta et tout. Bah là, on redescend un petit peu, on revient dans la réalité. Et donc, prise de sang. Et donc là, mon copain, enfin, mon meilleur ami était parti, Romain lui dormait. Je regarde les résultats, positif. Alors là, sur le coup, je me dis, mais sérieux? Non, mais. Non, mais. C'est vraiment positif, je me dis, ah mais, attends, attends, c'est positif. Attends, attends. Ça veut dire que dans 9 mois, je peux être maman. Attends, 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 attends.
Là
Et du coup, je réalise pas. Enfin, je réalise sans réaliser.
là.
Et puis
Ouais.
du coup, je vais voir mon copain, je lui dis, c'est positif. Il me fait.
Là
Et en fait, il a voulu. Je sais pas. En fait, je pense qu'il avait eu un élan tout de suite. Il a dit, ouais, mais, attends, 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 attends. T'es sûr? Je lui dis oui, je suis sûre. Là, c'est sûr. Il y a 66 UI, là, c'est sûr. Enfin,
Oui.
je crois que c'était 66 au début, ouais, c'était quelque chose comme ça. Et il me dit, OK, t'es contente? Je lui dis ouais. Je fais, ah, je suis contente. Et donc, du coup, on fait quand même la deuxième prise de sang. Pareil, ça a bien augmenté. J'appelle mon médecin, je lui dis, ben, enfin, j'appelle le secrétariat. C'est sa secrétaire qui décroche et qui me dit, Alléluia, Nadège, on y est arrivé. On y est arrivé. Et je me disais, mais elle-même, elle est en stress aussi pour moi, en fait. Et du coup, on fait une première échographie. On entend le cœur battre. On voit une petite chose à l'écran, toute minuscule. Et là, le médecin dit, bah, voilà, je vous ai dit, vous allez y arriver, non? Et je lui dis, mais je n'y croyais pas, je vous assure, docteur, je n'y croyais plus. Il me disait, bah, écoutez, bah là, c'est bon, vous allez continuer à prendre quand même les hormones, vous allez continuer l'acide folique, je vous surveille, on va tout faire pour que tout se passe bien et vous inquiétez pas, je suis là. Donc, du coup, hop, début de grossesse.
Ça
Au
y est.
départ, je me suis dit, c'est le début, il faut quand même que je garde en tête que tout peut arriver parce que le premier trimestre, c'est
Oui.
souvent ce qu'il y a de plus délicat pour une grossesse. Et je me dis,
Effectivement.
bon, bah, c'est cool. Et. Très rapidement, les premiers signes de grossesse apparaissent. Donc, ça va être les nausées, les vomissements,
Ouais.
les étourdissements, les vertiges encore. Et un jour, au travail, je suis allée au travail et je me suis mise à vomir dans le RER. J'étais tellement gênée. Je n'ai pas souligné la honte. La honte. J'ai pas pu. En fait, je crois qu'on était à la gare d'Aulnay. Et là, tu sais, le côté, le goût acide dans la bouche. Et là, je fais non. Oh, non, 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 non,
Pas
non, non,
ici,
non.
pas
J'étais
ici.
assise, mais j'étais en panique. J'étais, je fais non, 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 non.
Mais t'as vomi par terre?
J'ai vomi par terre. J'ai
Mon
vomi
Dieu!
par terre. Franchement, j'étais, mais je me suis levée parce que je me suis dit, si ça sort, ça va éclabousser la dame qui est en face de moi et c'est pas le
Oui,
but.
ouais.
Du coup, je
Oh
me
là
suis
là.
levée. Je me suis mise, en fait, j'essaie de me retenir, j'essaie de me retenir. Et les portes ne s'ouvraient pas. J'étais là, je fais, ça va aller. Et bam, tout est
Oh
sorti.
là là, oh là
Oh
là.
la honte! Je suis sortie, je suis descendue sur le quai, parce qu'on est arrivé à l'autre gare. Et là, ça reprend. Donc, je revolais. Je me dis, oh non, mais c'est chiant.
Là
J'envoie un message à Romain, je lui dis, je viens de vomir dans le RER. Il me fait, non, ça Et là, je me dis, mais oh, la honte, la honte. Quand je vois les gens vomir, déjà, moi, je suis là, je dis, mais franchement, les gens, là, ils ne peuvent pas se retenir.
ils
Alors que quand toi, ça
abusent.
t'arrive, ah ouais, c'est clair.
Bah
Là, ça se
oui,
redescend un petit peu.
c'est
Et là, je me
clair.
suis dit, ah ouais, ça craint. Donc, du coup, je retourne chez moi pour pouvoir me changer et tout ça. Je repars. Et dans la journée, je fais un malaise à mon travail. Donc là, je me dis, ah ouais, quand même, c'est pas terrible. Donc, le SAMU arrive, m'emmène à Port-Royal pour savoir si tout va bien. Bébé va ni nickel, mais c'est moi, en fait, qui malheureusement, n'ai pas supporté la journée. Et mon médecin, je l'appelle tout de suite après, je lui dis, bah, écoutez, j'ai fait un malaise au travail, j'ai vomi dans le RER, il faudrait que je puisse vous voir. Et il me dit, bah, écoutez, ça tombe bien, parce qu'il faut que je vous examine, parce que je voudrais vérifier si on doit vous cercler ou pas. Et là, je
D'accord.
me dis, qu'à 2 mois de grossesse, ça me paraît un
C'est un
petit
peu
peu tôt.
tôt.
Pour moi, le cerclage, c'est à la fin du premier trimestre et généralement, c'est aux alentours du 4e mois. Et il me dit, étant donné que le deuxième embryon, parce qu'il y avait deux embryons pour ce transfert-là et qu'il n'avait pas tenu, il a dit, on ne prend pas de risque. Donc, le plus simple, c'est de faire le cerclage le plus tôt possible. Donc,
D'accord.
il me fait le cerclage, ça se passe bien. Il me dit, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un si petit utérus parce qu'en fait, mon utérus est vraiment minuscule et c'est aussi pour ça que je n'arrivais pas à tomber enceinte.
D'accord.
Et il me dit, en compte rendu, il vient me voir et il me dit, bon, bah, vous êtes arrivée jusqu'à la fin de votre grossesse. Et là, je lui dis,
À 2 mois.
à 2 mois là, c'est tôt, c'est très très tôt. Et il me dit, bah, si on veut que cette grossesse aille jusqu'au bout, il faut qu'on vous arrête.
D'accord.
Et je lui dis, mais du coup, je m'arrête, c'est-à-dire que je suis en arrêt maladie. Il fait, oui, je vais vous donner tous les mois, vous allez venir me voir tous les mois, je vous donnerai un document, enfin un arrêt maladie, et tous les mois, vous serez arrêté. Je lui dis, mais c'était pas prévu, en fait. Parce qu'on n'en avait pas parlé. Enfin, pour lui, c'était logique que quand tu es cerclé, tu es à domicile. Et moi,
D'accord.
pour moi, dans ma tête, c'était, bah, je
Non.
continuais ma vie, mais je serais peut-être arrêtée un peu plus tôt que prévu.
C'est prévu.
Voilà. Et il me dit, ah non, non, vous êtes arrêtée dès maintenant. Comment te dire que j'étais pas prête psychologiquement? Et du coup, je m'effondre et je me dis, mais j'ai l'impression d'être punie en fait. J'ai l'impression de subir vraiment le truc et de me dire, bon, bah, bon, après, c'est pour le bien de mon futur bébé, mais quelque part, c'est comme si on me punissait. Du jour au lendemain, on me dit, bah, t'as plus de contact avec les gens, entre guillemets, parce que
Ouais.
le contact que tu as principalement en journée, c'est tes collègues, le soir, c'est ta
Oui.
famille. Et là, je me dis, ah ouais, du jour au lendemain, comme ça, c'est brutal, quoi.
Ouais.
Et la
Et qu'en plus,
sage-femme
c'était
qui
avant le
me voit là.
Covid, donc tu as été confinée avant tout
Confinée,
le
c'est exactement.
monde.
Exactement. J'ai vécu le lockdown avant tout le monde, en avant-première. Et puis la sage-femme qui me voit dans le couloir en train de pleurer et qui me dit, mais madame, c'est pour votre bien. Et puis profitez-en. Vous allez vous reposer. En plus, on arrive en été, parce que c'est vrai que c'était arrivé en juillet quand il m'a cerclée. Donc c'était la canicule aussi. Il me dit, vous imaginez les transports en commun, les gens qui ne vont pas vous laisser vous asseoir dans les transports, qui vont vous bousculer, prendre des risques inutiles. C'est pas la peine. Restez chez vous, vous êtes très bien. Je lui dis, bah, c'est un peu difficile à encaisser quand même. Et donc, moi, j'ai commencé à prendre, à me dire psychologiquement, OK, ça va aller, je vais rester à la maison, je ne vais pas avoir une vie sociale de ouf, mais voilà, c'est pour me préserver et préserver ma grossesse. Donc, on se focalise dessus. Et donc, du coup, les mois suivent, et donc, je vois mon ventre arrondir, bébé qui bouge, je fais écouter
Ah.
beaucoup de musique africaine. Donc là, je prends conscience vraiment que bah, c'est bénéfique pour moi de rester à domicile et de me reposer, surtout que je ne pouvais pas marcher très longtemps. Et donc, on arrive à la fin de la grossesse, hyper impatiente, on me
Ça
décercle,
y
et là, je me dis,
est.
ma bébé, elle va arriver bientôt. Et là, je remarque des petites choses bizarres, à savoir bah, des œdèmes aux pieds. Je vois mes pieds gonflent, donc je me dis, c'est bizarre. Et lors d'un examen, d'un prélèvement, on me dit, j'ai des protéines dans les urines. Donc, je me dis,
C'est
œdème,
pas bon
urine,
signe.
protéines, c'est pas bon signe. Je pense direct à la prééclampsie. Mon médecin me dit, bah, écoute, va à l'hôpital. Donc, j'y vais, je suis hospitalisée normalement pour 24 heures qui vont se transformer en 14 jours. Donc là, sur le coup, je me dis, bah, ça craint, c'est pas terrible. Et je suis déclenchée une première fois, bébé ne sort pas. Déclenchée une deuxième fois, et là, cette fois-ci, le travail commence. Et
Ah.
quand on dit déclenchement, on sait que les contractions, c'est pas une blague, et on douille.
Oui. C'est pas
Donc du coup,
des
ah, c'est pas des
lol
lol du tout, hein. C'est pas comme si c'était juste une petite douleur, on s'est coupé le doigt. Là, on sent vraiment que le travail.
Ouais.
Et je me dis, ça y est, je vais rencontrer ma fille. Donc, super hâte et tout ça. Et donc, on me pose la péridurale. Les heures passent. Je passe de 3 à 6 cm. Et ensuite, plus rien. Je me dis, ah, d'accord. Bon, bah, ça craint un petit peu pour les 10 cm. Et le soir, le gynécologue qui vient me voir en me disant, bah, écoutez, ça me paraît un petit peu long, on va examiner. Donc la température a augmenté, ma tension a augmenté. C'était les effets en fait de la prééclampsie. Il me dit, écoutez, à 21 h, vous me la mettez en salle, on fait une césarienne d'urgence. Donc je me dis, mais je ne suis pas prête en fait à passer ce cap-là, parce que d'ailleurs, je n'avais jamais parlé. Pour moi, j'accoucherai naturellement, en tout cas
Oui.
par voie basse. Et du coup, mon compagnon est exclu. On lui demande de ne pas venir, que pour l'instant, c'est l'urgence. On n'a pas le temps d'expliquer. Hop, on passe à la salle. On met le champ de la bétadine sur mon ventre et tout ça. Bébé arrive en bonne santé. Et j'avais l'impression de la connaître, en fait, quand je l'ai vue. Et moi, j'avais toute une idée de mon accouchement, bon, qui ne s'est pas du tout passé. Donc,
Oui.
je fais coucou Mila. Elle part au bout de 3 secondes, donc à peine le temps de la voir. Et en fait, pendant la césarienne, j'ai pas mal, j'ai eu quand même des douleurs parce que je sentais que j'avais mal et je demandais à ce qu'on m'aide, enfin qu'on m'explique ce qui se passe. Je leur demandais, ben, vous pouvez me rassurer, me dire quelque chose et personne vraiment me parlait. Et j'ai senti que j'étais un petit peu laissée à l'abandon, quoi. C'était vraiment, on s'occupe de vous, mais on n'a pas le temps de venir vous rassurer, de vous tenir la main, de vous parler. C'était vraiment dans le speed. Et du coup, je l'ai très mal vécu. Et donc, bébé va bien, ça c'est cool. Papa est présent, aucun souci. Et le jour de ma sortie, on retire le pansement pour voir ma césarienne. On me dit, bah, c'est nickel, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, je me dis, ah, ça y est, au bout de 12 jours, c'est
Ça y
bon, je rentre
est,
chez moi, libérée, délivrée.
libération.
C'est ça. Je me dis, allez, c'est bon, j'ai montré la maison à Mila, voici ta chambre, toute fière et tout. Et là, je remarque en fait que j'ai des grosses douleurs en bas du ventre et que je saigne. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je demande à Romain, mais tu peux regarder. Il me dit, bon, il faut qu'on retourne aux urgences. J'ai fait, ah oui, à ce point-là. Et il me fait, ah ouais, non, mais là, ça ne va pas du tout. Donc, je me mets à pleurer en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Le calvaire n'est pas fini. On arrive à l'hôpital, c'est la femme de mon médecin qui me reçoit en me disant, écoutez, il faut que vous soyez réhospitalisé, il faut qu'on nettoie votre cicatrice qui s'est infectée. Donc, le médecin qui s'est occupé de ma césarienne arrive, me dit, mais vous étiez sortie? Je fais, bah oui, mais regardez qu'est-ce que vous m'avez fait en fait. Et il me dit, on va drainer, il y a du pus qui s'est accumulé, ça s'est infecté, on va tout nettoyer. Donc, papa, bébé sort de la chambre pendant 45 minutes, c'est la course pour tout enlever. On me remet une perf, enfin, c'était pour moi, c'était la goutte d'eau en fait. J'avais
Ah
déjà eu
oui.
une grossesse difficile, mais là, c'était vraiment, j'en pouvais plus. Donc, je pleure, et à un moment donné, l'infirmière me dit, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez garder votre fille cette nuit? Et je lui dis, écoutez, j'arrive même pas à me lever toute seule, je pourrais jamais pouvoir, je pourrais pas la porter, la mettre entre moi, lui donner le sein, donc je la laisse partir avec son papa. Donc, le cœur déchiré.
Déchirement, oui.
Je manque la première nuit de ma fille à la maison. Moi, je suis hospitalisée, en pleurs. Le papa qui m'envoie des photos quasiment toute la nuit pour me dire, elle va bien, elle s'endort, elle se réveille, je l'ai changée, elle a pris une petite douche, tout va bien. Donc, il arrive le lendemain matin à 9 h pétante avec la petite. La première chose que je fais, c'est ma fille. Je ne le cache même pas, je prends mon bébé pour se rapprocher.
Bah oui.
Mon bébé. Et je lui dis, mais c'est juste une horreur en fait d'être séparée comme ça.
Ouais.
Mais fallait assumer aussi mon rôle, c'est que si je ne suis pas apte, je vais pas me forcer de me mettre en danger. Elle a un papa qui est présent, donc c'est à lui de prendre la relève. Et donc ça se passe très bien. Papa est super content d'avoir passé sa première nuit avec sa fille, très fier, mais aussi inquiet pour moi. Et du coup, les médecins me disent, bon, dans 48 heures, vous sortez, c'est sûr, mais vous allez avoir des soins pendant 3 semaines, 1 mois. Et qui s'est révélé être 2 mois et demi de soins à domicile avec un
Oh là
infirmier
là.
tous les jours. Donc, je ne te dis pas la misère que c'était de te dire que pendant 30, 30, 45 minutes, tu es charcuté par un infirmier pour nettoyer ta plaie, de mettre des mèches pour pouvoir combler les trous et te dire, bon, bah, écoutez, madame, on se voit demain matin. Donc, du coup, ta
Oui.
vie, elle est faite en fonction de l'arrivée de ton infirmier et de ton bébé. Et ça a été extrêmement dur parce que elle est née le 7 février. J'ai terminé les soins à domicile fin avril. Donc c'était vraiment vraiment long. Et je trouve que c'est ce qui m'a gâché ma maternité en fait. C'était vraiment ça. Et bon bah aujourd'hui je vais beaucoup mieux, mais clairement je n'accoucherai plus dans cet hôpital. J'irai ailleurs.
Oui.
Voilà, c'était ma petite histoire de
Non.
fille.
Non, c'est vrai que ouais, c'est ton histoire, elle est poignante parce que enfin, là, entre guillemets, on peut dire que tu as tout cumulé, quoi. Tu as tout cumulé. C'est pas juste le parcours PMA, c'est pas juste le cerclage, c'est
C'est
pas
ça.
juste le postpartum qui se passe mal, c'est vraiment tout.
C'est vrai qu'on a surmonté pas mal de choses et je me dis, on a un couple quand même assez fort parce que je me dis, on s'est quand même embrouillé plusieurs fois malgré tout.
Oui,
Alors,
normal.
imagine des couples qui ont des problèmes de communication ou des problèmes XY. Mais un couple se casse la gueule direct. En
Ouais,
PMA, je ne suis même pas
j'imagine.
étonnée qu'il y ait beaucoup de petites séparations parce que c'est un stress énorme. Physiquement, ben, on prend du poids quand même avec la PMA parce que les hormones, ce n'est pas non plus de la rigolade. Tu as des absences à ton travail. Donc, si tu souhaites avoir une augmentation ou changer de poste, eh ben, limite, on va te dire ben, tu as été absente, donc non. Donc, tu sens qu'il y a pas mal de petites choses qui te sont. En fait, tu as l'impression d'être puni quelque part parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. À 19 h 30, nous, c'était les heures où on faisait les injections. Donc, on ne
Donc tu
pouvait pas
sors
sortir.
pas, tu fais voilà.
Voilà, tu étais vraiment privé d'une partie de ta vie au final. Tu te concentres tellement sur ce projet bébé que tu oublies un petit peu ce qu'il y a autour, mais quelque part, ce n'est pas plus mal parce que ça te permet de ne pas justement te déconcentrer et de rester focus sur ton objectif. Donc, c'est vrai que nous, ça nous a quand même beaucoup aidé et on a aussi appris que beaucoup de personnes étaient passées par la PMA. Le nombre de
Oui.
personnes qui sont passées qui ne le disent pas,
Je
et
le
c'est
dis
quand
pas.
toi, tu leur dis, qui te disent, ah bah, tu sais, nous aussi, pour
Mais
le
nous
coup, on est
aussi.
c'est incroyable le nombre de
Ouais.
personnes. Et même
Et
dans mes
encore
familles
plus dans la
assises,
communauté noire.
on est d'accord. Là, il y a un tabou, mais j'ai jamais vu ça de
Ouais,
ma vie.
ouais, ouais,
Oh là là, incroyable.
ouais.
Et les gens ne devraient pas avoir honte, au contraire, ils devraient en parler pour que les gens sachent que si eux passent par là, ils sauront que derrière, il y a des ancêtres qui sont passés par là. Je dis des ancêtres, peut-être que j'exagère, mais je pense que tout ce qui est fausse couche, tout ce qui va être infertilité de l'homme ou de l'infertilité de la femme, sont des choses que les gens connaissent. Et ce n'est pas une honte. Moi, je trouve que c'est pas une... C'est ça que j'en parle facilement, c'est que je considère que c'est une chance d'avoir des gens qui ont vécu ça, qui peuvent en parler, partager leur
Oui.
expérience. Et il faut pas du tout le voir de côté, de ce côté négatif, en fait. C'est vraiment triste, moi, je trouve, de voir ça comme ça. Mais je pense que les mentalités vont changer justement grâce à des femmes comme toi, grâce à Sheena Donia, grâce à Danielle Aranda, enfin, toutes ces femmes-là. Bon, j'ai cité que des femmes noires, hein, mais bon. Pour moi, c'est ça qui, pour moi, me touche le plus, c'est
Oui.
qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. On passe tous par des épreuves énormes. Cerise Daily, je ne sais pas si tu la connais,
Oui, je l'ai
qui est géniale.
interviewé,
Mais oui, tu l'as interviewée, c'est vrai!
oui.
Que j'adore énormément. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le podcast avec toi, avec
Ah.
Plutôt au chocolat. Nous, à la maison, c'est plutôt à loco. Elle fait trop rire, c'est vrai, je l'avais même écouté 2 fois, j'avais oublié. Mais toi,
Là.
par exemple, elle a une vie incroyable. Je veux dire, c'est une femme qui, c'est une jeune femme qui a pris beaucoup sur elle, sur beaucoup de choses. Tu as interviewé tellement de femmes avec des histoires qui sont jamais les mêmes, en fait. Il y a tellement de différences dans nos histoires, mais la racine reste la même. On est des femmes et on se construit au fur et à mesure. Et franchement, je te remercie énormément pour ça, d'ailleurs, parce que c'est grâce à toi que je me suis remise à écouter des podcasts.
Ah, je t'en prie.
Et du
Avec
coup, j'en écoute
plaisir.
très régulièrement. Et franchement, Dieu merci que vous soyez présente parce que les nouvelles générations qui sont derrière vont en avoir besoin,
Ouais,
clairement.
ouais. Ouais,
Donc,
non, c'est
heureusement
vrai. Et
qu'elle est là.
puis, avant, et même au-delà de ça, c'est juste de savoir aussi à quoi t'attendre. Parce que enfin, devenir maman, c'est une expérience qui est inédite. Et même si tu la racontes, enfin, il y a tellement d'histoires, tellement de façons d'être mère,
Tout
qu'au
à fait.
final, bah, tu peux peut-être trouver quelqu'un qui aura une histoire similaire à la tienne. Et même ça, ce n'est pas forcément facile, mais ça te permet au moins de savoir à quoi t'attendre. Parce que quand tu sais que chez nous, c'est des choses qui sont taboues, qu'on ne raconte pas forcément, ou voilà, tu te dis que bah, c'est bien qu'il y ait des personnes de notre âge qui nous ressemblent et qui ont vécu la même chose.
Exactement. Heureusement. Non, c'est
Et au
incroyable.
final, voilà, et avec tout ça, moi, ma question, enfin, c'est celle que je pose à tout le monde, c'est à quel moment est-ce que tu t'es sentie devenir mère? Parce que là, tu as dû aussi beaucoup t'occuper de toi plus que de ton enfant.
C'est ça.
Et donc, voilà, est-ce que ça a joué dans ta relation avec ta fille ou pas?
Oui, je pense que jusqu'à présent, ça a encore joué. C'est très présent parce que les premiers moments de sa vie, c'était vraiment avec son papa. Parce que quand je suis sortie de la césarienne, elle a passé la nuit dans les bras de son papa. Donc forcément, il y a un lien qui s'est créé entre eux. Et jusqu'à
Bien
présent,
sûr.
hein, ma fille, elle dit toujours papa. Hein. Si elle voit l'un de nous deux, elle ira vers son père, pas vers moi. Ça, c'est sûr. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment créé un lien très fort. Et moi, je me sentis un petit peu exclue au tout début, mais j'ai vite repris ma place puisque je l'allaitais. Et je me sentis devenir vraiment maman à partir du moment où j'ai senti qu'elle me manquait. La première nuit où elle n'était pas avec moi, là, je me suis dit, mais en fait, ça me déchire le cœur, en fait. Mais littéralement, vraiment, j'avais une douleur au niveau du cœur. Je me disais, mais ma fille me manque. Je l'ai plus dans mon ventre, donc elle n'est plus avec moi. Elle est avec son papa, mais... Et c'est là que je me suis dit, mais c'est mon bébé, en fait. Je suis passée de celle qui attendait son enfant à celle qui est devenue mère, mais une maman louve, quoi. Très protectrice. Et je refusais d'ailleurs qu'elle aille dans les bras d'autres personnes que moi ou son père. Donc, bon, ça fait quelques années. Et en fait, j'ai l'impression que cette relation s'est faite progressivement, au fur et à mesure des jours. Et puisque son papa a repris le travail, au bout de, je crois, c'est les 11 jours, bah là, j'avais que des moments exclusifs avec elle. Donc, je me sentais
Oui.
encore mieux, je me sentais encore plus maman, extrêmement fière de mes rondeurs. Mon ventre n'était pas plat, je m'en fichais complètement, j'étais
C'est
tellement
pas
contente.
grave.
C'est mon ventre, mes seins qui donnaient, qui pouvaient la nourrir, c'était ma fierté. Et au fur et à mesure, voilà, cette relation s'est construite. Et je la regardais pendant des heures et des heures. Enfin, c'était. Oh, c'est magique.
C'est
C'est magique. Je
merveilleux.
souhaite à toutes les femmes et à tous les hommes.
Ah, non, je partage ton souhait. Hein. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment merveilleux. Et
Ouais.
dans tout ce que tu as vécu, dans ta maternité ou même dans ta vie, est-ce qu'il y a un moment, un conseil ou quelque chose que tu as partagé avec ta maman, qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager aujourd'hui?
Oui, alors quand j'ai. Parce que très tôt, j'ai dit à ma mère que j'étais en PMA. Et elle m'a dit, écoute, ma fille, tu sais quoi, on va aller à l'église toutes les deux. Et je me suis dit, mais je vais à l'église aussi, mais pas autant qu'elle. Et elle me dit, allez, viens avec moi. Je lui dis, oui, allez, je te suis maman, je viens. Et on arrive à l'église, on allume un cierge, elle de son côté, moi aussi. Et habituellement, on prie dans nos têtes. Et là, elle a prié à haute voix en me disant, mais. Vierge Marie, s'il te plaît, aide ma fille à avoir son bébé. Je te demande pas de faire un grand miracle, mais juste de pousser vers la lumière, de l'aider à aller vers cette force, en fait, de pouvoir tenir le coup, d'être courageuse, d'être brave et d'affronter même les difficultés qu'elle va peut-être rencontrer sur son chemin. Mais assiste-la. Moi, je lui donnerai l'amour qu'il faut, mais toi, tu es l'esprit divin, aide-la. Et du coup, j'étais extrêmement touchée parce que ma mère, c'est pas quelqu'un qui montre forcément ses sentiments, c'est pas quelqu'un qui va dire je t'aime ou te prendre dans les bras. C'est quelqu'un bon, qui a beaucoup d'affection pour nous, hein, ça c'est sûr, mais elle
Oui.
va pas forcément le montrer de cette façon. Quand elle va te dire va chercher le sel, il y a un peu d'amour dedans, tu vois. Elle va te dire bon, bah, je t'ai fait ton plat préféré, c'est une façon de dire je t'aime en fait pour elle. Donc, elle est très affectueuse, c'est une maman nourricière et c'est vrai que. La voir se mettre à genoux, à prier, je me suis dit, c'est que vraiment, elle ressent ma peine. Et je pense que on a souvent l'impression de négliger nos vies auprès de nos parents. On ne leur dit pas toujours tout, mais je pense que nos regards nous trahissent. Et ils savent que quand il y a quelque chose, c'est là qu'ils interviennent et se disent, je vais aller aider mon enfant, je l'ai mis au monde, et c'est ma responsabilité, c'est l'amour de ma vie, je serai là pour elle. Donc, c'est ce que ma mère a fait et j'ai été extrêmement touchée. Et je pense que je ne pourrai jamais la remercier. Il n'y aura jamais de mots assez forts. Merci, c'est quelque chose, mais il n'y aura pas quelque chose au-dessus, quoi. La mère est divine. Voilà. Quand on a une maman comme ça, on ne peut que prier pour sa santé et qu'elle vive le plus longtemps possible.
Oh là là, c'est trop émouvant. Vraiment
Ouais.
là, on termine. J'ai tenu pendant tout le pendant tout l'entretien, pendant toute l'interview. Mais là, vraiment pour le coup, ouais, là, je pense que c'est le mot. Tu me fais vraiment fondre parce que ce que ta mère a fait, qui pourrait être juste vue comme une simple prière pour quelqu'un d'autre, bah non, ça a beaucoup plus d'importance. Et t'entendre le raconter, vraiment, je trouve que c'est super émouvant, quoi.
Merci.
Je t'en
Même moi,
prie.
ça commence à ouf. Bon, on va pas lâcher les cartes tout de suite.
Non, mais vraiment, c'est fou. Et toi, comment tu vas aujourd'hui alors, après tout ça?
Bah, super bien. Là, on est en train de réfléchir à bébé 2. Donc, du coup, on
Oui.
va refaire les examens, vérifier comment ça va, si ça sera un bébé couette ou si ça sera un bébé FIV. Donc, sachant qu'il me reste deux, on va voir s'il faudra les utiliser ou non. Parce qu'on a le choix soit de les donner à un couple. Bon, pour l'instant, moi, ce n'est pas encore ma vision des choses.
Bien
Soit de
sûr.
les laisser à la médecine ou soit les utiliser. Donc, du coup, on va réfléchir. Tout dépend de ce que le médecin nous dira. Si le SOPK est toujours très présent et que du coup, bon, ben, ce n'est pas possible, et ben, on sait qu'on pourra passer par une FIV, par un transfert. Donc, on n'aura pas besoin de repasser par tout ce qui est injection, traitement, échographie, etc. Juste une prise de sang, vérifier comment ça va. Donc, voilà. Donc, on aura deux choix, bébé couette ou bébé FIV.
D'accord, bah je te le souhaite en tout cas, je te souhaite le bébé couette avant
Ouais,
tout.
j'espère aussi.
Je te le souhaite vraiment de tout cœur, de tout cœur.
Merci.
Bon, voilà, bah en tout cas Doris, merci beaucoup de nous avoir fait partager ton histoire. Vraiment,
Avec
elle est
plaisir.
poignante, elle est intéressante, mais elle restait nécessaire. Donc encore une fois, merci. Et
Avec
je te souhaite, mais vraiment, mais à 1000% un deuxième bébé. Couette
J'espère.
si possible. Et mais si ça doit
Oui.
passer par un transfert, ça passera par un transfert.
Ça
Mais en tout
passera
cas,
par
voilà.
terre.
Un bébé deux.
Oui.
Bah, je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.
À très bientôt. Gros bisous.
Ciao. Bisous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Ayonene Podcast. À tout de suite.